Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Catherine, à Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Au programme de votre émission de ce samedi, une session de rattrapage, pas de grandes annonces pour Emmanuel Macron mercredi sur France 2. Et même un déni, diront certains, sur l'immigration et les OQTF, puisqu'ils n'y voient pas de lien avec l'insécurité. Ce qu'on retiendra aussi, c'est la réponse de la bergère au berger, la main tendue aux Républicains, tant souhaitée par Nicolas Sarkozy dimanche dernier dans le JDD. Premier thème de discussion. Sur la crise énergétique, là aussi, c'est un patchwork. À se demander si ce n'est pas le retour du quoi qu'il en coûte face à l'inflation. Comment commence-t-on à payer les effets pervers du soutien à l'Ukraine? Les entreprises et les collectivités qui découvrent leurs factures d'énergie voient le lien très nettement. L'énergie au cœur aussi de la voiture électrique de demain, celle qui sera trop chère pour les classes moyennes, pas assez verte pour les écologistes, on en parle aussi. Enfin, session de rattrapage pour sauver le couple franco-allemand, la dette, la course au gaz et à l'électricité. Olaf et Emmanuel se sont rencontrés mercredi à Paris, mais visiblement plus pour sauver les apparences. L'amitié franco-allemande a-t-elle vécu? Vladimir Poutine a-t-il au moins remporté une victoire en faisant vaciller l'Union? Nous le verrons, vous avez le programme, le grand doigt, c'est parti. C'est une véritable session de rattrapage que s'est offert Emmanuel Macron mercredi soir sur France 2. Une heure d'interview pour montrer quoi aux Français, Gérard Carrérou? Qu'il tient le cap?
Non, pour montrer que le président de la République, de ce point de vue, est fidèle à lui-même. Il était dans le déni sur le problème de la sécurité et de l'immigration. Eh bien là, c'était le déni confirmé, on pourrait même dire que c'était le grand déni. Alors d'abord, il a fallu attendre, si j'ai bien regardé mes notes, la page 6 et 7 de mes notes, c'est-à-dire la fin de l'émission, pour qu'on aborde ce sujet, alors qu'il avait dominé l'actualité des derniers jours qui précédaient l'intervention. Enfin, peu importe, le moment n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est effectivement ce qu'il a dit. Il a, et cette phrase, alors là vraiment cette phrase sur « il n'y a pas le lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité ». Alors d'abord existentiel, moi je veux bien que, comme dirait Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Mais enfin, il y a un, pour tous les Français qui vivent en France, qui vont dans les rues de France, de toutes les villes, ils voient chaque jour qu'il y a un lien évident. Et pourquoi ce lien? Ce n'est pas une question de race ou de racisme, c'est une question de nombre. À partir du moment où on a laissé s'installer des flux incontrôlés de centaines de milliers d'illégaux, le nombre, comme dirait Zemmour, il a raison sur ce point, le nombre, la loi du nombre s'exerce. Et dans ces centaines de milliers de gens qui viennent, qui sont, c'est vrai, pour la plupart d'un autre monde, d'une autre civilisation, qui sont sans moyens d'existence, pour beaucoup d'entre eux, évidemment, le pourcentage de délinquants est extraordinairement élevé, ce que confirme tous les chiffres du ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, M. Darmanin, plus de 50% à Paris, des taux astronomiques dans un certain nombre de villes, de grandes villes et de moyennes villes de France. Donc je dis que ne pas faire le lien et refuser en disant « jamais je ferai le lien », c'est être dans le grand déni et confirmer que ces problèmes sont l'angle mort du premier quinquennat et déjà maintenant du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
La parole est à la défense.
Oui. Il parle Michel aussi, Cotta. Pardon, mais tout à fait après cette phrase, effectivement, sur le lien existentiel entre l'immigration et la sécurité, qui est au fond quelque chose de bien pensant que tout le monde dit sans oser effectivement dire. Ce qu'il dit dans une deuxième partie, c'est que l'immigration illégale est présente dans la délinquance pour la moitié.
Oui.
Donc la moitié des faits, donc il le dit, il le reconnaît, la moitié des faits de la délinquance sont relevés et viennent et proviennent d'étrangers.
Donc il y a bien un lien existentiel
voilà.
Entre
donc,
lui
et...
Ça veut dire qu'il dit une chose et son contraire.
Ça veut dire que dans un premier temps, il dit il n'y a pas de lien existentiel entre, mettons, l'islam et, l'insécurité. En revanche, il y a un lien tout à fait qu'il décrit entre les pourcentages.
Je trouvais qu'il n'a pas nié la réalité.
Mais moi non plus, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire.
Un délit sur deux, notamment à Paris, est commis par un immigré, il l'a admis. C'est vrai, Gérard.
Il a répété ce qu'avait dit Darmanin.
Il l'a dit.
Non, c'est la première fois qu'il le reconnaît. C'est la première fois que le président de la République le reconnaît. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas aller plus loin et faire des immigrés des boucs émissaires. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État est quand même le garant de l'unité nationale. Et sur ce plan-là, je lui ai trouvé un ton nouveau, quand même, un peu nouveau. Bon, tu as raison, quand tu prends au pied de la lettre ce qu'il a dit sur le lien existentiel en réalité, il n'a pas voulu reconnaître ex abrupto le lien existentiel, mais il a reconnu un État. L'émigration incontrôlée n'est pas, et c'est un fiasco, et d'ailleurs sur le plan de l'OQTF, c'est un fiasco total. L'année dernière, 7771 OQTF, combien ont été reconduits chez eux ? 22. 22 sur 7100, c'est un fiasco total. Mais il a, pour la première fois, il n'a pas nié la réalité. Je trouve qu'il a franchi un pas quand même.
Mais c'est encore pire. Alors, je vais rajouter juste une phrase. Il a dit après quelque chose d'accablant. Il a dit, attention, je maintiens les 100%. Hein, le fameux chiffre qu'il avait donné à Valeurs Actuelles, 100% seront effectivement expulsés. Mmh. Mais il dit, on va s'attaquer effectivement à ceux qui troublent l'ordre public, c'est-à-dire ceux qui ont déjà ou un casier, etc. Ça veut dire qu'on ne va pas s'attaquer aux 100%, on va s'attaquer peut-être à 5% des 100%. Et par exemple, la meurtrière de Lola, qui était, elle, n'avait pas de casier, n'avait pas de rapport, eh bien, elle ne sera pas concernée. Ceux qui n'ont pas fait déjà de délit sur le territoire ne seront pas, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
Bon, et là, c'est en ça. L'occurrence, elle a commis un crime, donc si elle sera concernée.
Elle maintenant, mais je parle de tous ceux qui sont potentiellement.
Oui, mais avant, elle n'était pas criminelle avant d'avoir commis un acte, un crime quand même.
Catherine, ça vous inspire quoi
Moi, ça m'inspire que le président a fait du en même temps. C'est-à-dire que chacun y pouvait, la gauche y trouvait ce qu'elle pouvait chercher, la droite, si elle écoutait, elle pouvait elle aussi.
Donc on en vient à la politique.
On en vient à la politique et moi, je l'ai trouvé pas mal, mais si vous voulez, je n'étais pas en attente d'une parole présidentielle parce qu'il a déjà parlé il y a 15 jours et puis pendant une heure. Heureusement, c'est une heure, hein, ce n'est pas deux heures et on se dit merci.
Une heure dix, oui.
Heureusement, pas plus.
Bon. Caroline Roux tient les timings.
Tient les trucs j'aimerais bien pouvoir vous poser des questions parce qu'il déroule. Oui. Bon, alors il avait un message.
Il y avait un graphique.
Moi, ce qui me gêne, c'est quand même... Dans le fond, qu'est-ce qu'il veut faire ? Après ça, on n'en sait rien. Il dit, bien sûr, je suis déterminé et je suis ça. Moi, je crois qu'il paye le fait d'être arrivé au pouvoir, d'avoir été réélu, ce qui est un exploit, après le premier exploit d'il y a 5 ans. Mais en réussissant à ne faire ni campagne pour la présidentielle, en ne disant pas ce qu'il voulait faire, il a juste sorti 65 ans, et alors, parce que c'était Colère qui lui avait dit, il faut le dire, bon, il n'y a pas réfléchi.
Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée.
Et il n'a rien dit pour les législatives, il ne s'est pas engagé, il n'a pas demandé aux Français de les élire, il n'a pas dit ce qu'il voulait faire, et avant même que les résultats soit connu, il a nommé une Premier ministre de gauche, alors que la majorité était de droite. Bon, donc pour les gens, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le pire, c'est pas qu'on se dit qu'il n'est pas bien, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il veut faire. Et quand il parle, je dirais qu'il n'a pas, il est intelligent, on peut dire qu'il a une intelligence supérieure, mais qu'il n'a pas, ce qui rassure, c'est ce fluide de l'autorité dont on se dit... Voilà, il y a un patron qui sait où il va. Voilà, c'est tout.
Alors, moi, pour tout vous dire, le soir du premier entretien, le 12 octobre dernier, je me suis dit que ce début de second règne du président de la République ressemblait à son crépuscule. Mais...
On va mettre du Wagner, là.
Je me suis posé la question en disant quelle était sa nouvelle marque de fabrique. Bon. Mais après sa deuxième émission, celle donc de la dernière, du 26 octobre, j'ai trouvé qu'il a enfin délivré quand même une feuille de route tardive, c'est vrai, mais qu'il a levé le voile sur une partie de ses intentions. La nécessité de faire des réformes difficiles, très difficiles.
Ça, il l'avait déjà dit 27 fois.
Tout le temps.
Oui, d'accord. Oui. Celle de la responsabilité budgétaire face à la démagogie des oppositions, on va y revenir. Et puis l'appel aux républicains avec pour la première fois l'ancrage d'une droite modérée. C'est vrai qu'il répondait là à l'interview de Nicolas Sarkozy.
On va y venir.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Alors, attends,
là, on
n'a
pas parlé encore.
Oui,
On attend, on laisse finir Charles.
Non, mais
on a entendu ton réquisitoire et le réquisitoire de Carrérou.
Et toi, tu es le défenseur.
Et moi, je ne suis pas le défenseur.
Avec Michel.
Je dis que c'est beaucoup plus nuancé.
C'est très équilibré.
Voilà.
Non, mais.
Alors, vous savez quoi ? On va marquer une pause et on se retrouve juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta sont les grandes voix du samedi matin sur Europe 1. Michel, on revient sur, j'allais dire, l'audibilité. Ça existe, ça, comme mot dans
voilà,
le dictionnaire ?
Oui, ça existe. Parce que moi, j'ai trouvé que dans une première partie, Emmanuel Macron était quand même, en disant toutes ces réformes, progrès, etc., était quand même un peu ennuyeux et difficile à suivre. Et je pensais, de ce point de vue-là, à la façon dont Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il annonçait son programme économique, lorsqu'il était ministre des Finances, savait à la fois avoir un talent et une proximité, et à la fois donner ses mesures dans l'ordre exact.
T'es déjà vu en même temps.
Bref. Non, mais j'ai trouvé. Bah, oui, d'ailleurs, il y a des comparaisons. On peut faire des comparaisons entre Valéry Giscard. On en a beaucoup fait. Bon. En revanche, j'ai trouvé que dans la deuxième partie, Emmanuel Macron reprenait du poil de la bête dans
quand
la dernière demi-heure.
Quand il s'est mis en colère.
Et notamment, effectivement, quand il s'est mis en colère. Mais surtout, tout était quand même dans ce qu'il a dit dès le début, mais qu'on n'a pas entendu ni mis dans le contexte, mais après, on l'a compris, qu'il était, lui, pour le mérite, pour le travail. Et ça, c'était le premier clin d'œil tout de même à l'union de la droite et à sa proximité avec la droite. Donc, au fond, il a été assez clair dans son discours pour la première fois, un peu ennuyé au début, moi j'ai trouvé, même très ennuyeux, et assez efficace à la fin.
Vous en venez au fait, ça veut dire qu'il a entendu le message de Nicolas Sarkozy dans le JDD dimanche dernier.
Et sur la politique, au fond, on retient le coup de gueule quand même contre la NUPES, cette alliance contre nature,
avec le RN.
L'alliance et la main tendue à la droite. Mais ça, il l'a fait, et c'est la première fois qu'il le fait comme ça.
Oui, Catherine.
Moi, quand je t'entends dire qu'il était un peu ennuyé après, puis qu'il s'est rattrapé, ça me faisait penser à Françoise Giroud, qui disait aux journalistes, mais quand on fait un papier, dès la première phrase, il faut lancer, parce que à quoi ça sert d'avoir du talent à la dixième si le lecteur est déjà parti. Eh bien, moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé avec le président Macron. Mais moi, j'ai bien aimé sa colère, tout d'un coup, parce qu'on a dit qu'elle était surjouée. Non, là, je crois qu'il l'a joué vraiment.
Il était sincère ?
Oui, ça l'a vraiment agacé. Alors, comme ça l'a vraiment agacé, il a été sincère. Mais où il dit qu'il y a eu un changement du texte eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Toutes les enquêtes qui ont été faites, on a demandé à tous les participants de la NUPES si oui ou non on avait changé le texte. Il n'a pas été changé. Ça a été dit par d'autres socialistes qui ont fait courir des bruits. Il y a eu, c'est vrai, une pression de François Hollande qui a essayé de dire aux socialistes, mais attendez, mettez une phrase pour être sûr que le RN ne viendra pas, parce qu'il essaie de jouer un rôle, François Hollande, parce qu'il veut revenir. Hein, d'ailleurs, il fait tout, il est invité partout.
Tout le monde veut revenir.
Il veut revenir. Mais en tous les cas, l'accusation d'avoir changé le texte pour que le RN vote, c'est pas vrai. Voilà.
Sauf qu'on n'en saura jamais rien. On n'en saura jamais rien. Personne ne peut l'annoncer, personne ne peut l'avouer. Et ça se passe.
Et alors ton
dans
sentiment, mais oui, alors tu, ouais, ben oui, alors bon, tu voilà, penses, non, c'est ton intime, conviction.
Je pense que la colère était une colère théâtrale. Bon, mais je ne lui reproche pas une colère théâtrale. C'est de bonne guerre.
Moi, je trouve que ça faisait du bien de voir un peu en colère.
Il y a des colères saines, comme disait l'autre.
Absolument. Il peut y avoir, pour une partie de l'électorat, ça peut paraître être cohérent de dire oui, c'est scandaleux au fond que ces gens-là qui n'ont rien en commun se mettent ensemble pour voter. Bon, je dirais quand même attention aux institutions de la Ve République. Nous ne sommes pas en Allemagne où pour faire une motion de censure pour renverser au Bundestag un gouvernement, il faut être d'accord sur une politique alternative. Ça, c'est le système allemand. Le système français, il n'y a aucune obligation de dire entre l'extrême gauche ou l'extrême droite ou peu importe l'extrême centre, ils peuvent parfaitement se mettre dans un même vote pour renverser un gouvernement. C'est ça l'esprit. Pourquoi c'est l'esprit des institutions du général de Gaulle? Parce que ça veut dire ils se mettent ensemble, bon, on renverse le gouvernement et ça sera éventuellement à ce moment-là dissolution et au peuple de trancher. Donc moi, je ne suis pas choqué et je ne prends pas des airs de vierge effarouchée pour dire, oh là là, le Front National, le Front National de Marine Le Pen qui vote la motion. Non, simplement, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a qu'un acteur qui ne se dévoile pas, puisque les autres se sont dévoilés dans ce vote, c'est les LR. Les LR, écoutez, je vais le dire, je me disais, je ne vais pas dire ça à la radio, je vais dire, ils ont le derrière entre deux chaises. Ils ont le cul entre deux chaises, comme on dit, dans les foyers. Parce qu'ils savent que s'ils votent, eux, une motion...
Que dans les foyers. Pas que dans les foyers.
Il n'y a pas que dans les foyers. Mais s'ils votent une motion, démotion de censure, n'importe laquelle d'ailleurs, les LR, effectivement, le gouvernement tombe. Et là, on est dans un cycle, il y a des élections, et ils ne sont pas sûrs, des LR. Je ne parle que des LR pour l'instant. Bon, ils ne sont pas sûrs de revenir vainqueurs. Donc, pour l'instant, le meilleur allié de Macron, et il a eu raison de piquer la colère, ne serait-ce que pour ça, le meilleur allié du président de la République, qui n'a pas de majorité, mais qui a une majorité relative, c'est des LR qui sont ligotés par leur empêchement structurel, pour le coup, existentiel, de voter une motion de censure.
Le moment n'est pas le bon pour l'instant. Mais absolument, ils sont en pleine campagne électorale pour désigner le chef du parti. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, ils ne peuvent pas se décider. Or, leur électorat est divisé en deux, partagé en deux. On l'a vu dans le très bon, d'ailleurs, très analytique, très pointu sondage de l'IFOP pour le JDD. 63% de leurs électeurs sont pour une alliance avec le président de la République. Et les autres, sont pour désaccord avec les députés de Marine Le Pen, avec le Rassemblement National. C'est en cela que ton image d'être entre deux chaises, évidemment,
est juste.
Donc soit c'est à droite toute, soit c'est combiné avec un président qui a une aile gauche.
Et il y a un reliquat, notamment chez les chefs, qui refusent d'être avec les uns ou avec les autres.
Ah ben, y a toujours ceux qui se prononcent
Non, c'est pas ça, parce qu'ils veulent exister, ils veulent survivre, ils veulent exister en attendant 2027, parce que rien n'est dit par rapport à 2027. Quel est celui qui sortira du pot? On ne sait pas, de toute façon. Est-ce que ce sera un républicain ou tout à fait autre chose?
Ou un hybride du style Édouard Philippe.
Et c'est la raison pour laquelle, hybride, on est en plein, déjà avec les voitures.
Ça m'étonnerait qu'on attende 2027.
C'est vrai que pour les motions de censure, ça pose des problèmes à tout le monde, parce qu'en admettant même qu'on n'ait pas vraiment touché des textes pour que ça soit acceptable par le Parti Socialiste, Olivier Faure a quand même dit « Ah, mais attention, on ne va pas voter systématiquement. » D'accord, mais il a dit « On ne va pas non plus. » Ça l'a marqué, puisqu'il a dit « On ne déposera pas forcément des motions de censure. La prochaine fois, on ne votera pas avec. » Et d'ailleurs, la prochaine motion de censure, les socialistes ne votent pas. Ouais. Ce qui prouve quand même que ça a fait des remous parmi eux et parmi les socialistes d'avoir voté la motion du Rassemblement National.
Quand même qu'Olivier Faure, qui tape très fort sur le président de la République, c'est pour masquer son propre embarras.
Ah oui, bien sûr.
La manière dont il s'est laissé,
avec un cynisme total,
ceux qui te donnent des leçons en permanence, notamment les socialistes d'Olivier Faure, contre le Rassemblement National, et qui en même temps ont joint leur voix au Rassemblement National, même si on nous dit maintenant qu'ils ont été surpris, pris en embuscade.
C'est-à-dire que la charge là, du président de la République a été quand même comprise par eux, en tout cas. La charge du président de la République a été comprise. Ils ne referont pas si facilement un vote avec le Rassemblement National.
10h28, une pause et on revient juste après avec les grandes voix.
10h, 11h.
Les grandes voix d'Europe 1.
Les grandes voix sont de retour avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Dans cette interview de mercredi soir, le chef de l'État a également évoqué la fin programmée de la voiture thermique, je dis bien thermique, pour 2035, et l'Europe a validé ce projet de ne plus en construire 24 heures plus tard. Enjeu capital selon le président pour la santé des Français et l'environnement, réduire la part des véhicules polluants en circulation
Est-ce un objectif atteignable, Michel Cotta ?
D'abord, je ne pense pas que ce soit un objectif atteignable, mais je ne suis pas sûr que ce soit un objectif souhaitable. Alors, on voit bien que c'est la contradiction numéro un de notre monde aujourd'hui. D'un côté, tout le monde dit le monde va crever, 5 degrés de plus, 8 degrés de plus pour le mois d'octobre. Il faut faire quelque chose. D'un côté, l'Europe condamne la France qui n'en fait pas assez pour aller dans le sens d'un pays vert et complètement vert. Bon. Et de l'autre côté, cette proposition de voiture électrique me paraît absolument... plus que impossible, presque injuste. Mmh. Un, le coût des véhicules électriques interdit à des gens qui ne sont pas des gens très aisés d'en acquérir.
50% de plus en moyenne.
On parlait tout à l'heure de la Smart électrique. Oui. C'est pas possible. C'était 40, combien
42 000. 40,
voilà. Bon, c'est pas possible. Deuxièmement,
le nouveau modèle,
la ségrégation,
oui.
La ségrégation retombe donc sur les gens qui sont les plus obligés à utiliser leur voiture, qui gardent le plus souvent leur voiture, et on dit que les gens gardent leur voiture environ 10 ans, à peu près, donc il faudrait s'y mettre tout de suite à acheter des voitures électriques immédiatement. Ça me semble complètement impossible. Et enfin, moi je veux bien qu'on fasse des voitures uniquement électriques à un moment où on dit qu'on va manquer d'électricité, mais il y a quelque chose là qui me gêne beaucoup, parce que je trouve que s'en remettre complètement à l'électrique, ça me paraît être de la folie aujourd'hui. Voilà.
Catherine, vous qui aimez le bruit du 6-cylindres.
Oui, non, mais c'est ça, je le regretterai, puis je ne suis pas prête de la lâcher. Mais cette voiture, moi je pense que cette décision prise par les Européens pose d'autres problèmes insurmontables, enfin qui vont créer des problèmes sociaux terribles. Alors, ce que vient de dire Michel, c'est qu'il va y avoir une différence, mais ça va créer, moi je pense aussi, à tous les aujourd'hui, bon, les grands constructeurs, ils vont peut-être s'adapter, mais tous les sous-traitants qui travaillaient, qu'est-ce qu'ils vont faire, je veux dire. Et ça fait des milliers d'emplois dans un pays qui va en manquer. Bon, d'autre part, les voitures électriques, ça marche avec des batteries, on n'en fabrique pas.
Donc on en fabrique en Chine.
Oui. Donc on se met sous dépendance de la Chine. Alors on vient de dire quelque chose de formidable parce qu'il faut du cobalt et du lithium. Mais le lithium, on en a dans le
bon, l'Allier.
Ça dans l'Allier. Bien. Mais ça tombe bien. Sauf qu'il faut des milliers de litres d'eau pour le sortir. Et dans une période de sécheresse dans le Massif Central, dans ce cas-là, est-ce que vous croyez que ça sera accepté? Ça ne sera pas accepté par les agriculteurs. Donc, on est face à des problèmes pour la France dont on ne voit pas la solution. Voilà, donc on va trop vite, je crois.
Charles Villeneuve.
Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est une idée dogmatique, idéologique, qui ressemble à la même logique de ceux qui, il y a 15 ans, ont voulu et en partie réussi réduire la part du nucléaire civil en France. À commencer par un président, deux présidents de la République, l'un qui était qui est moteur dans la fermeture de Fessenheim, et l'autre qui finalement a laissé faire un peu d'une négligence de la maintenance des réacteurs, c'est-à-dire l'actuel chef de l'État. Bon, nous sommes dans la situation, et justement elle vient d'aborder ce problème, Catherine et aussi bien Michel, où l'on veut précipiter les choses, quitte aussi à mettre en grave difficulté l'industrie automobile française et tous ses sous-traitants. Et à élargir la fracture entre les gens des grandes, les Français des grandes agglomérations, c'est-à-dire les urbains, et ceux des champs où c'est des petites agglomérations, c'est-à-dire les ruraux. L'idée de développer l'électrique n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais celle de développer les énergies marines renouvelables aussi n'est pas une bonne idée, n'est pas une mauvaise idée en soi. Et notamment aussi la voiture à hydrogène. Pourquoi ne faisons-nous pas comme les Allemands, nos grands amis, de l'autre côté du Rhin, et les Japonais, qui eux développent à l'heure actuelle justement toutes ces recherches? Pourquoi on ne se met pas à la même heure? Pourquoi?
Il y a une filiale hydrogène, il y a d'ailleurs une voiture hydrogène qui a été, deux voitures hydrogène françaises qui ont été présentées au Mondial. Gérard Carreau.
Écoutez, moi je pense que quelle que soit la façon dont on la regarde, cette décision française, puis maintenant européenne, de la nuit d'il y a deux nuits, c'est-à-dire 2035, plus de moteurs, comme on disait, de moteurs à explosion. C'est la fin du moteur à explosion.
Mais c'est aussi
l'explosion. Je pense que la comparaison qu'a faite Charles me paraît très juste. Ce sont au fond les mêmes européistes et autres, ceux qui ont cassé l'outil nucléaire, parce qu'on peut dire qu'ils l'ont cassé, en tout cas ils l'ont sérieusement abîmé, l'outil nucléaire du général de Gaulle en France, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de nous casser. Alors, ils cassent, effectivement, vous l'avez dit, je ne répète pas tout ce qui a été dit, ils vont casser, Catherine a bien dit, notre industrie. Bon, la France était quand même un grand pays d'automobile, hein, un pays fondateur d'automobile.
Ça l'est encore. Donc,
mais avec le fait qu'il nous manque des choses que vous avez dites également, comme le lithium, etc., on va plutôt acheter éventuellement des véhicules chinois ou autres. Oui. Enfin bon, en tout cas, c'est très mauvais.
Il y a des usines à batterie qui sont en train de se construire en France, en attendant qu'elles nous produisent tout ça.
Bon, je trouve donc que c'est quelque chose, c'est une fuite en avant, et il y a quelque chose de politique là-dedans. Je pense que politiquement, c'est une extraordinaire bombe à retardement qui est larguée. Nous entrons dans deux mois, dans l'année 2023. 12 ans, dans la vie d'un homme, c'est court, 12 ans. Et on se dit, oh là là, et il y a déjà des gens qui se disent, attention, je ne pourrais pas entrer avec ma voiture dans 41 grandes villes et leurs banlieues à partir très rapidement, avant. Ouais. Donc on va créer une psychose. Et moi je pensais, écoutez, j'ai cette comparaison parce que j'ai vécu la campagne de Trump, celle qu'il a gagnée. Mmh. On voyait, il y avait deux Amériques pendant la campagne de Trump. Il y avait l'Amérique qui allait l'applaudir, qui se déplaçait. C'était l'Amérique des, pour tous ceux qui ont été aux États-Unis ou qui regardent le cinéma, les pick-up trucks. Vous voyez ce que je veux dire? Ces camions à l'arrière, là. Tout le monde a un pick-up truck en Amérique. Et c'était
en tout cas plus dans le Montana
Trump,
qu'à New York.
Trump, c'était l'Amérique des pick-up trucks contre l'Amérique des limousines, si vous voulez. Eh bien là, on est en train de créer un réflexe de tous les gens de la France périphérie est analysée par plein d'auteurs intelligents.
C'est les kangous contre les
Zoés. C'est les dépossédés. Ce sont les dépossédés.
Les possédants d'un côté.
C'est les possédés. C'est les nouveaux dépossédés. Voilà. Ils ont l'impression qu'on les dépossède peu à peu, déjà de leur territoire, c'est-à-dire de leur identité culturelle et historique, mais qu'on va les déposséder également à travers leur voiture.
Gérard, Michel, il y a une question à se poser. De Gaulle crée la filière nucléaire. Tous les présidents de la République qui lui succèdent, y compris François Mitterrand, jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui l'a même amélioré, renouvelé, tous entretiennent cette filière nucléaire. Tous. Et à partir de Nicolas Sarkozy, ça s'arrête. C'est incroyable.
Ce qu'on peut poser comme question entre nous, puisque nous sommes là du même avis, est-ce que il n'y a pas une génération importante derrière nous qui pousse tellement vers l'écologie, vers...
Qui a encore manifesté ce matin en bloquant l'autoroute A6. Vous avez vu ces militants qui se sont mis sur l'autoroute A6, qui ont bloqué l'autoroute.
Je sais pas si vous
ce sont des militants qui ne veulent... c'est pas une histoire de voiture électrique ou thermique. Ils ne veulent plus de voiture du tout.
Voilà. C'est-à-dire
qu'on faut bien comprendre ça.
Ce que je ne sais pas, c'est donc si dans les nouvelles générations, d'une manière plus aiguë, il y a maintenant une revendication, effectivement, de retour,
retour à la décroissance. C'est la décroissance. Oui.
Les jeunes aujourd'hui ne passent plus leur permis de conduire.
D'accord, mais quand vous entendez toute la journée, quand on entend toute la journée, attention, la fin du monde, et pour demain, et pour après-demain, et puis si ce n'est pas pour après-demain, c'est dans 3 jours plus loin, on se dit, à un moment donné, est-ce que c'est nous qui sommes en train de voir les choses d'une certaine façon et d'une façon sûrement rationnelle, mais est-ce que l'irrationnel n'est pas plus important?
C'est une idéologie.
Vous avez 4 heures, 10h40 et nous on se retrouve juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, la crise de l'énergie sont aussi les premiers retours de bâton pour les collectivités. Les premières factures ont été reçues par les communes, plus 11 millions d'euros à Cherbourg, la ville qui tire la sonnette d'alarme. C'est un surcoût non négligeable qui se profile pour les budgets des municipalités, Charles Villeneuve.
Pas seulement les collectivités locales, mais aussi les entreprises.
Oui.
C'est un sujet extrêmement sensible. Ça peut conduire les maires à se révolter contre l'exécutif simplement parce qu'ils ne pourront boucler leur budget. Or, il faut toujours se rappeler que les budgets des villes doivent impérativement être votés en équilibre. C'est un sujet explosif, notamment pour les petites communes, et qui sera très politique. Et pour les entreprises industrielles, l'explosion des factures énergétiques va se répercuter dans les coûts de ce qu'ils fabriquent. Le président de la République a pris même un risque en s'engageant à supprimer ce qu'on appelle la CVAE, c'est-à-dire les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est une des principales ressources des collectivités locales à un moment où les coûts explosent.
Mais qui était une aberration pour les entreprises, ça, en revanche. Tu vois, bon, puisqu'il faut aussi aider les entreprises. En revanche, je pense que là, tu as raison, mais la suppression de la taxe d'habitation, mais ça, ça a été vraiment une énorme perte pour les collectivités locales. Donc reste la taxe foncière qui d'ailleurs ne cesse d'augmenter. Donc on va se rattraper sûrement parce que bientôt.
Non mais c'est vrai. Elle a raison de souligner
la taxe foncière. Déjà, elle explose dans certaines villes. Donc on va se les propriétaires qui payent la taxe foncière vont être.
Alors le coût de l'énergie, il faut être réaliste, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, en l'occurrence les nations et les particuliers.
Mais oui, bon, c'est France, le beurre et l'argent du
France,
beurre.
En France, on va payer 15% à partir de... Et on dit qu'on est les privilégiés de l'Europe, puisqu'on va payer moins cher, on n'aura que 15% d'augmentation. Quand vous verrez quand même votre note d'électricité passer chez ceux qui payent 200-300 euros, qui vont passer à plus 15%, ça fera quelque chose quand même. Enfin, mais c'est quoi le résultat? D'où ça vient, ça? Ça vient pas du... C'est pas le bon Dieu tout seul qui a décidé ça. C'est quand même des mesures politiques. Alors, on a abondamment parlé dans cette émission, j'y reviens pas, du nucléaire. Les casseurs du nucléaire sont largement responsables. Ils méritent de se regarder dans la glace.
Et ils sont toujours pas contents.
Mais il n'y a pas que. Il y a aujourd'hui... Bon, moi, la guerre en Ukraine, il y a une sorte de consensus sur la guerre. Tout le monde est parti... en faisant la guerre, d'ailleurs, avec la peau des Ukrainiens, mais peu importe, tout le monde est parti à la guerre en chantant. Bon, sauf que maintenant, on commence à payer les additions. Et moi, je vous dis un truc, dans 8 jours, il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis. Vous allez voir, je ne sais pas quel sera le résultat, on verra, on le commentera ici, mais vous allez voir que déjà, il y a un fort mouvement chez les Américains, pas seulement chez les Républicains trumpistes, mais même chez la gauche des démocrates qui a failli faire un mouvement assez important pour dire attention, on va arrêter de... Parce qu'ils en sont déjà à je ne sais combien
arrêter
de milliards.
Arrêter l'aide à l'Ukraine, c'est
à l'Ukraine qui fait monter, le prix du galon d'essence.
Je voulais insister là-dessus parce que...
Il va falloir quand même faire un jour, un moment, un bilan des sanctions, bilan pas seulement pour les Russes, parce qu'on ne sait pas encore, mais pour les Ukrainiens et aussi pour les Européens.
Je voulais revenir sur les sanctions, parce qu'au fond, on entend parler tout le temps de crise de l'électricité, etc., mais sans dire d'où ça vient.
Ça
venait...
Oui, c'est pas le bon Dieu.
Or, ça vient effectivement des sanctions. Et quand François Bayrou dit qu'on est peut-être à une crise analogue à celle de la Deuxième Guerre mondiale, moi, je me dis qu'à un moment donné, beaucoup de Français, surtout si l'inflation continue, et elle continue, surtout s'ils ne peuvent pas se chauffer à certains moments cet hiver, se diront « Mais tout ça, pourquoi ?» Donc ça risque d'être une vraie crise.
C'est ce que disait Charles, c'est explosif.
Une vraie crise politique, mais naturellement, une vraie crise internationale. Et en tout cas, une vraie crise pour chacun de nous, quand on leur dira d'où ça vient et où ça va, surtout.
Catherine ?
Non, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Je pensais au couple franco-allemand en me disant que c'est justement l'augmentation du prix du gaz, ça crée... qui fait
un des facteurs
de la mésentente dans le couple franco-allemand.
Bah, vous savez on va en parler dans un instant. Non, juste un dernier mot.
Je voudrais, pour clore
ce chapitre-là,
une synthèse en quelque sorte... de ce qu'a dit Michel, Catherine et Gérard, sur notamment les Américains. Parce qu'il faut savoir que si les Américains arrêtent la livraison des armes de la 5e génération, ce qui bloque les Russes essentiellement militairement, c'est les armes de la 5e génération données par les Américains aux Ukrainiens. Première chose, il faut savoir que c'est ça militairement qui a empêché, parce que les Russes n'en ont pas, de toute façon. Les armes les plus intelligentes, etc., sont toutes données aux Ukrainiens. Mais la date clé pour si les Américains prennent une décision au contraire à tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le 8 novembre. c'est-à-dire les élections de mi-terme, comme on dit. Bon. Et si ce mouvement décrit par Gérard se confirme dans les urnes américaines, il est bien évident qu'ensuite, il y a aussi le coût. Il faut savoir que par jour, Zelensky, le président ukrainien, a besoin de 5 milliards pour payer toute sa fonction publique et ses militaires. 5 milliards par jour, versés par qui en grande partie? L'Union européenne.
Depuis le 24 février dernier. Une pause et on revient juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h,
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette grande interview télévisée sur France 2, le chef de l'État était avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour déjeuner pour tenter d'apaiser les tensions avec Berlin, très refroidies depuis la crise de la dette dans la zone euro et pour lesquelles la crise de l'énergie n'a rien arrangé. Il a joué le tout pour sauver l'amitié franco-allemande, Catherine Ney.
L'amitié franco-allemande, c'est vrai que c'est parti sur un peu du romantisme. C'est vrai qu'il y a eu de l'affect entre les Giscard et Schmitt, Mitterrand et Kohl. Enfin, ça avait des raisons historiques.
Mais d'abord De Gaulle et Adenauer.
De Gaulle et Adenauer, oui, bien sûr. Il y avait, parce que c'était la fin de la guerre, il y avait toute une... il y avait une situation politique qui compte et qui compte moins aujourd'hui parce que le temps a passé. Mais quand vous voyez le couple franco-allemand, ça a toujours été un couple qui s'entendait peut-être, qui cherchait des compromis pour l'Europe, qui a fait avancer l'Europe. Et sans le couple allemand, l'Europe n'aurait pas avancé. Si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ah bon. Mais il faut bien dire que c'est deux visions de la politique, toujours totalement différentes. Parce que d'un côté, parce que l'Allemagne a toujours misé sur la compétitivité de son industrie, sur l'emploi, et elle voulait être le deuxième exportateur mondial. Et elle le pouvait grâce à une énergie pas chère, qui est le gaz russe. Tandis que la France, elle, depuis 30 ans, elle a fait le choix de la croissance par la consommation, et non de la production. D'ailleurs, le périmètre industriel s'est beaucoup rétréci. Et elle a acheté la paix sociale avec la dépense, les subventions, l'endettement. Bon, voilà. Donc, c'est deux pays qui n'ont pas. Et arrive Olaf Scholz, qui lui... arrive et c'est à un moment où il doit complètement repenser le modèle.
Nord, hein.
Comment c'est un homme du Nord, c'est un taiseux, c'est pas un marrant. Il a pas de copains, même on le trouve ambigu et bizarre en Allemagne où il ne s'entend absolument pas avec sa coalition. Ils sont d'accord sur rien pour
mais
régler.
Mais il prend des décisions.
Mais il prend des décisions comme.
Il achète son gaz.
Il achète son gaz, oui. Et puis il donne une moitié, un tiers du port d'Hambourg aux Chinois alors qu'il a pas, alors que sa majorité veut pas. Donc ça veut dire qu'il a des bon. Mais là aujourd'hui, tout ce que peut lui dire Macron, c'est pas recevable parce que il a 200 milliards et lui pense pas que ces 200 milliards où il va essayer d'éponger pour les particuliers, pour les entreprises, pour garder l'Allemagne forte, il veut pas en faire partager les Européens. Voilà,
non, c'est ça. Ça. Il y a deux stratégies
complètement différentes.
Oui, non,
il y a
mais
deux
surtout
stratégies.
Parce que...
La géopolitique et de toute façon, on voit bien à quel point l'Allemagne a des problèmes. Elle en a toujours, elle en a structurellement. Il y a un problème un problème démographique, un problème systématique de qu'est-ce qu'on fait avec les immigrés, etc. Mais surtout, elle a une souveraineté qui n'est pas une souveraineté stratégique. Elle n'a pas d'armement et elle se met justement à vouloir construire un parapluie sans le concours des Français, un parapluie bouclier antimissile. Et deuxièmement, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas d'armée complètement, mais enfin, elle n'est pas. Elle a une armée qui existe, mais enfin, qui est une faible armée. Donc en ce moment, on comprend que en période de guerre, la priorité de l'Allemagne soit évidemment de faire autre chose que de ce que fait la France.
Gérard.
Mais la géopolitique a changé. Soyons clairs, c'est pas depuis la guerre d'Ukraine. Ça avait commencé largement avant. Le fameux couple dont on s'est gargarisé franco-allemand, ça allait bien tant qu'il y avait une France politiquement forte et une Allemagne coupée en deux, etc. Oui. Depuis le moment où il y a eu la réunification, et ça s'est aujourd'hui concrétisé par une Allemagne qui non seulement est le moteur économique, mais en même temps aspire maintenant à devenir le moteur politique de l'Europe sous le parapluie américain pour sa défense. Et la bombe atomique française qui eût pu être éventuellement une sorte de... Elle n'est pas pour eux l'élément de sauvegarde.
C'est le sujet de fond.
C'est le rapprochement de l'Amérique, forcément.
Ce n'est pas une querelle de personne à l'heure actuelle, même si Catherine a très bien décrit le tempérament et les inclinaisons, notamment économiques et financières, d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier. L'Allemagne est une puissance économique, ce que n'est pas la France. Mmh. Mais elle n'a pas d'armée. Elle ne bénéficie pas du parapluie atomique Gérard Carrirou vient de le dire. Elle n'a pas accès à l'énergie. Elle n'a plus accès à l'énergie russe. Elle vend de moins en moins ses voitures et ses machines-outils à la Chine. Elle a donc considéré qu'elle n'avait d'autre avenir sécuritaire que de s'abriter sous le parapluie américain, en même temps que 14 autres pays européens, dans le fameux bouclier anti-missile que va lui livrer, si tu veux, complètement fabriquer,
clé en main,
les Américains. Sauf que c'est très dangereux parce que nous pensions que cette amitié, l'Union européenne, la fameuse armée invisible pour l'instant évidemment européenne, était une garantie sur l'avenir et sur le siècle à venir. Il ne faut pas oublier que 1870, 14-18, 39-45, c'est avec les Allemands que nous avons payé. Donc il faut à tout prix reprendre langue et à tout prix trouver un accord avec les Allemands.
En attendant, si Poutine a réussi quelque chose, c'est à diviser l'Europe quand même.
Merci les grandes voix, 10h57. Bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Ce samedi, nous allons parler de cuisine libanaise. Le baba ganouche, le manouché, les falafels, il y en aura pour tout le monde. Et Sylvie Testu vient partager avec nous un poisson meunière que nous allons arroser de beurre fondu avec Maître Condebord au studio Coluche.
On arrive.
À tout de suite.